Radio Prague, les informations.
Une coopération plus étroite devrait s'établir entre la République tchèque et l'Arabie saoudite. La Commission européenne appelle les anciens membres de l'Union européenne à libérer leur marché du travail. Les grands froids ont causé des millions de couronnes de dommages en Tchéquie. Le ministre tchèque de la Santé, David Rad, en visite depuis samedi en Arabie Saoudite, négocie une offre plus riche de services dans les stations thermales tchèques. En effet, les Saoudiens sont intéressés par les possibilités de cure thermale en Tchéquie et désirent que plus de médecins et d'infirmières tchèques viennent travailler dans leur pays. Actuellement, ils sont au nombre de 150. Résultat de la visite, la signature d'un mémorandum sur une étroite coopération entre les deux pays. D'après la Commission européenne, limiter la libre circulation de la main-d'œuvre des pays nouveaux membres de l'Union européenne est inutile et même nuisible. C'est le message que la Commission veut adresser aux anciens membres de l'Union. Elle présentera des arguments économiques qui devraient les convaincre que continuer à appliquer les périodes transitoires pour la libre circulation de la main-d'œuvre des nouveaux membres n'a aucun sens. Les dommages causés sur le réseau de distribution d'eau potable à Prague au cours du mois de janvier seulement s'élèvent à plus de 30 millions de couronnes. Il y a eu près de 600 incidents sur le réseau, en premier lieu des tuyaux qui n'ont pas résisté aux fortes gelées lors d'un hiver qui n'avait pas été aussi froid depuis 30 ans. Le ministre de la Culture, Vítězslav Jandák, considère la loi controversée sur les églises comme inutile. Cette loi a été adoptée par le Parlement grâce aux voix des sociodémocrates et des communistes et signée par le président de la République. Les églises mettent en doute les passages concernant l'enregistrement des charités et des établissements scolaires. Les chrétiens démocrates ont même déposé une plainte à la Cour constitutionnelle. La Tchéquie a produit dans les 8500 tonnes de miel en 2005, la plus grosse production dans les 5 dernières années. Selon le secrétaire de l'Union des producteurs de miel tchèque, Miloslav Peroutka, cela est satisfaisant, mais par contre, les producteurs sont loin d'être satisfaits des prix d'achat du miel, beaucoup trop bas d'après eux. Lors de la cérémonie d'ouverture des 20e Jeux Olympiques de Turin, ce sera la jeune patineuse de vitesse, Martina Sablikova, qui portera le drapeau de la République tchèque. À 18 ans, elle a établi les records mondiaux juniors des 3000 et 5000 mètres. La météo nous prévoit encore de grands froids pour les nuits suivantes. Le thermomètre pourrait descendre à moins 20 degrés dans certaines régions. À partir de lundi, on peut s'attendre à de fortes chutes de neige, mais aussi à un léger réchauffement. Bonne fête au Vanda, lundi 6 février. C'était Alain Slivinski avec les informations, et voici la suite du programme en langue française de Radio Prague. Ah !
Merci d'être fidèle à Radio Prague et merci d'être fidèle aux émissions en français de Radio Prague. Jean-Luc Godard et la Tchécoslovaquie au lendemain de l'écrasement du printemps de Prague. Ce sera le premier thème de cette émission après la récente projection pour la première fois dans la capitale tchèque du documentaire Pravda. Ensuite, nous ferons un tour de l'actualité culturelle, mais tout de suite, place donc à Jean-Luc Godard. Avec Dziga Vertov, un groupe de militants maoïstes, Jean-Luc Godard a tourné une petite dizaine de films entre 1968 et 1972. Juste après l'écrasement du printemps de Prague, Godard vient avec son équipe filmer clandestinement une Tchécoslovaquie occupée par les troupes du pacte de Varsovie. Da, c'est ce mot tchèque qui signifie vérité, que Godard a choisi comme titre pour ce documentaire militant et qui a récemment été projeté pour la première fois à Prague.
Alors, Da, tu me demandes dans quel pays je suis.
Une heure d'image saccadée tournée en 16 mm avec des commentaires lus de la voix monocorde caractéristique de Jean-Luc Godard, entrecoupée par quelques bribes d'entretien et par une voix féminine qui semble être celle de la traductrice. Si quelques passages sont empruntés à Mao, pour le texte lu en voix off, Godard s'est beaucoup inspiré de Bertolt Brecht et de son livre Métis pour inventer un dialogue imaginaire entre Vladimir et Rosa, censé représenter Vladimir Ilyitch Lénine et Rosa Luxembourg. David Seniek est critique de cinéma et participe à l'organisation de nombreux festivals en République tchèque.
Les gens qui s'intéressent un peu plus au film de Godard savent que ce film existe, que Godard a tourné un film en République tchèque en 68 ou 69. Mais en fait, je crois qu'il n'y a personne qui l'a vu ou je connais personne qui a vu ce film. En fait, moi j'ai préparé la rétrospective de Jean-Luc Godard dans le cadre du festival de Jihlava. Et c'est Marek Hovorka, le directeur du festival, qui m'a demandé de trouver le film pour pouvoir le projeter. Mais ce film, en fait, c'est un film mystérieux. Il y a une légende qui va avec. Et cette légende dit que Godard n'a jamais voulu présenter ce film en Tchécoslovaquie et dans aucun pays de l'Europe de l'Est. Parce qu'il avait honte, en fait, pour les idées politiques qu'il exprime dans ce film.
Les communistes sont des gens comme nous-mêmes.
Il y a aussi une autre légende qui dit que quand le film a été présenté, je ne sais pas, à Cannes ou dans le cadre d'un festival à l'étranger, je crois en France, Godard est venu à ce festival et il y avait aussi deux ou trois réalisateurs tchèques, de la nouvelle vague tchèque, qui ont vu ce film et qui ont dit qu'ils allaient tuer Godard. Mais comme ils ont, la veille en fait de leur départ, ils ont beaucoup bu. Et ils ne se sont pas réveillés, alors Godard il a pris l'avion plutôt que eux, alors ils n'ont pas pu le tuer.
Pourquoi est-ce qu'ils auraient voulu le tuer?
Pour ce qu'il dit dans le film, qui mélange tout, qui plus ou moins est d'accord avec l'arrivée de l'armée, comment ça s'appelle, de Pâques de Varsovie, qu'il comprend rien dans la situation de la Tchécoslovaquie de l'époque.
Qu'il est un peu à côté de la plaque, en fait.
Oui, qui est à côté de la plaque, oui, c'est ça.
C'est ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire on essaie de faire des meetings, de prendre des engrais pour le bétail.
Alors, comment vous l'avez retrouvé, vous, ce film?
Très facilement. Facilement. J'ai trouvé un festival à Grenoble ou à Lyon, je ne me souviens plus, qui a organisé une rétrospective intégrale des films politique de Godard de cette époque. Ils ont présenté aussi le film Pravda. J'ai appelé la personne qui était responsable de la programmation de ce festival et elle m'a donné en fait tous les contacts pour tous les films et c'est Gaumont qui est ayant droit.
Et ça s'appelle Pravda en français aussi.
Oui, ça s'appelle Pravda. Des fois on dit la vérité mais le titre d'origine c'est Pravda.
Qu'est-ce que vous avez pensé après la première projection de ce film?
Non, moi j'étais aussi à côté de la plaque. Moi j'étais complètement c'était tellement confus. Moi j'étais perdu un peu, je savais pas quoi penser. Et en fait le problème c'était que moi je l'ai vu la première fois mais en le traduisant. Alors j'ai pas pu suivre tout le côté visuel, mais j'ai trouvé qu'il y avait des scènes qui étaient amusantes, qu'il y avait des choses qui caractérisaient très bien la situation de l'époque. Parce que moi, je suis né en 73, alors plus ou moins, c'était pareil. Mais moi, je trouve que c'est un essai, que Godard, il est venu ici, il a essayé de se familiariser un peu avec la situation, la politique. Ici, il voulait, à l'époque, il était très gauchiste, on sait qu'il était très aussi maoïste et tout ça, il a tout mélangé. Moi, je crois que de la situation politique, il a rien compris, ou très peu, qu'il a beaucoup mélanger des choses qu'on ne peut pas mélanger. Il mélange Dubček, Husák, Brežněv. Mais je crois qu'il prouve avec ce film qu'il a du talent, que c'est un réalisateur qui est capable de trouver toujours un côté original dans n'importe quel thème.
Il y a beaucoup plus de possibilités dans un film d'espace. Elle pense qu'ici, il n'y a pas la technique, il n'y a pas le matériel, il n'y a pas l'argent, mais en ce qui concerne la liberté, on en a.
On voit Vera Chytilová dans ce film, c'est une surprise.
Si, on le savait. On voulait l'inviter pour la projection. Je sais pas si finalement ils l'ont invité ou pas. Parce qu'en plus, ce qu'elle dit, c'est pas très favorisant pour elle, non, ce qu'elle dit, parce qu'elle dit en fait qu'il y a la liberté en Tchécoslovaquie à l'époque, c'est juste que bon, on n'a pas de pellicule, la technique, tout ça. C'est bizarre parce qu'en fait, moi je m'y attendais en fait à quelque chose de plus important, mais elle apparaît 30 secondes, c'est tout.
Et Vera Chytilová, comme tous les autres personnages entreaperçus dans Pravda, est utilisée par Godard pour affirmer des thèses en faveur du régime et mettre l'accent sur la mauvaise influence de certains artistes, soi-disant faussement humanistes et marqués par le révisionnisme occidental. Quelque temps après la sortie de Pravda, cependant, Jean-Luc Godard considérait déjà ce film qualifié à l'époque de spontanéiste dogmatique, de déchet marxiste-léniniste. Et puisque nous parlons aujourd'hui dans cette émission des cinéastes français ayant réalisé des films sur la Tchécoslovaquie communiste, notons que ce lundi sera projeté au Centre tchèque de Paris Le Bonheur dans 20 ans, Prague 1948-1968. Et à la différence du documentaire de Godard et de son équipe, ce film d'Albert Knobler, réalisé en 1971, retrace, avec des documents d'archives, l'histoire de la Tchécoslovaquie depuis l'entrée des troupes soviétiques, acclamées par toute la population, jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Dubček. Le film s'arrête avant l'arrivée des chars soviétiques dans Prague, sous les huées d'une foule interloquée et terrorisée, en fait du coup de Prague, au printemps de Prague. La sortie du film en 1971 fut très controversée, même si Pierre Dex dans Les Lettres françaises, Jean Daniel dans Le Nouvel Observateur et Raymond Aron dans Le Figaro ont souligné la force et la beauté de ce film, l'ensemble de la presse, et notamment Le Monde, ont condamné le film pour anticommunisme primaire. Nous aurons sûrement bientôt l'occasion de reparler plus en détail de ce film qui fut un échec à sa sortie. Déprimé, incompris, le réalisateur se suicida. Le film fut oublié, le négatif perdu. Mais, miraculeusement, en 2001, Françoise London, la fille d'Arthur et de Liz London, retrouva une copie. Elle retrouva également un mixage de la version anglaise commentée par Orson Welles. Et pour retracer cette vingtaine d'années, le réalisateur a examiné en toute liberté 200 000 mètres de bandes d'actualité et de films de propagande pendant le printemps 1968. Il a rapporté à Paris 25 000 mètres pour faire le montage du film. De son côté, Kostas Papayoannou, professeur à l'école pratique des hautes études, réunissait les éléments sonores d'où sont tirés les textes et des commentaires dits par Michel Bouquet. C'est déjà l'heure de nous quitter, on se quitte en musique avec un morceau de Jaromír Nohavica, le chansonnier venu de sa ville d'Ostrava pour 11 concerts à Prague à la fin du mois de janvier, tous donnés à guichet fermé. Jaromír Nohavica donc et sa tsukraška Bossa Nova.
Cukrlátko, on totiž říká, dobré lidi zuby nebolí. A je to paráda chodit po světě a mít v ústech sladko. Ko 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 ko. Sláva, cukr a káva a půl litru becherovky. Hurá, 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 půjč mi bůra. Útrata dnes dělá 400, všechny cukráčky z celé republiky. Na něho dělají sláďonké cukrbliky a on jim za odměnu zpívá zas a znovu tuhletu cukrářskou bosanovu. Můj přítel pije šťávu z besinek, říká, že nad ním není, že je glukózní, famózní, monstrózní, ať si taky dám. Koukej, jak mu roste oblast budoucích maminek. A já mám podezření, že se zakulatí jako míč a až ho někdo kopne, odkutálí se mi pryč. A já zůstanu sám, úplně sám. Sláva, cukr a káva a půl litru becherovky. Hurá, 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 půjč mi bůra. Útrata dnes dělá 400, všechny cukrářky z celé republiky. Na něho dělají sladonké cukrbliky a on jim za odměnu zpívá zas a znovu tuhletu cukrářskou bosanovu. Už na špičky si nevidí, postava fortelná se mu zvětšuje, výměra tři ary. On ale tvrdí, že glicidy jsou pro lidi. Je prý v něm kotel na ta cukry spaluje, někdo se skáruje, někdo se svetuje a on jí bomparí. Bom 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 parí je sláva, cukr a káva a půl.
Vous avez dit la République tchèque. Voyagez donc. Jarka Gisubelova.
La Galerie nationale de Prague fête le 5 février ses 210 ans. À cette occasion, toutes ces expositions ouvrent largement leurs portes aux visiteurs et j'ai voulu en profiter pour vous y inviter. Pour cette fois, ce sera le directeur de la Galerie nationale, Milan Knijak, en personne, qui nous servira de guide. Je vous souhaite une agréable écoute. L'histoire de la Galerie nationale de Prague a commencé à s'écrire le 5 février 1796, lorsqu'un groupe de représentants de la noblesse patriotique tchèque et de bourgeois érudits éclairés a décidé, dit dans le langage de l'époque, de cultiver le goût en déclin du milieu tchèque. La corporation Assiné, qui s'appelait la Société des Amis Patriotiques de l'Art, a fondé deux institutions importantes qui manquaient à Prague, l'Académie des Arts et la Galerie de Peinture, accessible au large public. Et c'est cette dernière justement qui est devenue le précurseur direct de la Galerie nationale de Prague. La toute première collection réunie par la Société des Amis de l'Art comptait 600 œuvres. Aujourd'hui, la Galerie nationale possède dans ses collections plus de 14 000 tableaux, 7 500 plastiques, presque 243 000 œuvres graphiques, 60 000 dessins, 3 600 œuvres architecturales et plus de 12 000 objets d'art oriental. Les collections permanentes sont installées dans 6 bâtiments historiques qui sont tous des objets d'art marquants. Le couvent Sainte-Agnès abrite l'art médiéval de Bohême et d'Europe centrale, le couvent Saint-Georges les œuvres du maniérisme et du baroque de Bohême, le palais Stenberg accueille l'art européen depuis l'Antiquité jusqu'au baroque, le palais Kinsky propose le paysage dans l'art tchèque des XVIIe-XXe siècles, le palais des Foires abrite les œuvres d'art des XIXe-XXIe siècles, la maison à la Madone Noire abrite le musée du cubisme tchèque et finalement le château de Zbraslav, l'art oriental d'Asie. Depuis 1999, la Galerie nationale est dirigée par le professeur Milan Knijak, lui-même peintre. Par quoi s'inscrira-t-il dans l'histoire de la galerie? Qu'est-ce qui a changé dans cette institution depuis son arrivée?
Změnilo se úplně všechno. A hlavně jsme se zbavili dluhů, ale podařilo se nám ty galerie zaplnit a prezentovat.
La galerie a complètement changé. Elle s'est débarrassée de ses dettes, mais le principal est que nous avons réussi à remplir les galeries d'œuvres d'art et les présenter en sorte que chacune de 6 expositions permanentes propose un programme à elle. Chacune est une institution vivante. Aucune de ces 6 maisons n'est abandonnée. Quand je suis arrivé, le palais des Foires faisait penser à un hôpital régional laissé à l'abandon. Aujourd'hui, il vit. Depuis le premier jusqu'au dernier étage, il est plein de visiteurs, de jeunes. Chaque matinée, il y a des foules d'enfants et d'écoliers, ce que je considère comme important pour une galerie, car c'est son avenir.
Důležité pro galerii, pač to je o její budoucnosti.
Le Palais des Foires, qui est la plus grande fierté du directeur actuel de la Galerie nationale, se trouve dans le 7e arrondissement de Prague-Holešovice. Au moment de son inauguration en 1924, le palais est un exemple de la première architecture officielle en style fonctionnaliste à Prague. Ses dimensions impressionnantes, un plan de 140 mètres sur 80 et 10 étages, ont encore été accentuées par des galeries s'élevant jusqu'au 7e étage. Chacun des étages a une superficie de 4 500 m². La grandeur et l'austérité du bâtiment ont choqué Le Corbusier, qui l'a visité en 1928. Il lui reprochait le manque d'élégance et de détails plus futés. Malgré le scepticisme de certains critiques, le Palais des Foires a servi de centre d'exposition et de siège de sociétés de commerce extérieur jusqu'aux années 1970. En août 1974, le feu se déclarait dans le bâtiment. Du palais, il ne restait que la charpente. Dans cette situation, personne ne s'acharnait à la reconstruction de ce colosse et on pensait plutôt à la démolition. En 1978, la Galerie nationale a proposé d'installer au palais, après sa reconstruction, les collections d'art moderne. Cette idée ne sera réalisée que presque 20 ans plus tard, le 15 décembre 1995. Date de sa réouverture solennelle au public. C'est au troisième étage du Palais des Foires que les visiteurs trouvent la très précieuse collection d'art français. Nous la devons à Vincent Kramář, depuis 1919, directeur de la Galerie nationale, qui, après sa mort, l'a légué à l'État tchécoslovaque. La collection comprend 127 tableaux et 44 œuvres plastiques. Delacroix, de Millet, Corot, Courbet, Monet, Pissarro, Seurat, Signac, Rousseau, Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Bonnard, Matisse, Utrillo, ainsi que les travaux de Marc Chagall et Pablo Picasso. Ma deuxième question posée à Milan Knižák, directeur de la Galerie nationale, était de savoir à quelle exposition inviterait-il spécialement des visiteurs français.
Francouzského, tak jako zvát na francouzskou sbírku je asi zbytečné.
Inviter le visiteur venant de France à l'exposition d'art français serait peut-être inutile, d'autant que la France est très riche en œuvres d'art tout à fait splendides. Toutefois, il faut savoir que Prague possède l'une des meilleures collections de Picasso dans le monde, car elle avait été achetée au temps où un Picasso ne coûtait que 300 francs. Je rappellerai aux visiteurs français que c'est à Prague qu'ils peuvent voir le tableau le plus célèbre du douanier Rousseau. Son autoportrait est actuellement exposé à Londres, d'où il se déplacera à Paris. Mais je l'inviterai à l'art tchèque. Je pense que l'art tchèque est tout simplement excellent, tant l'art historique que contemporain, récent, moderne. Ainsi, le musée du cubisme récemment ouvert dans la maison à la Madone Noire, qui est à elle seule l'une des plus belles constructions cubistes de Prague, est absolument unique en son genre. Les objets exposés présentent une spécificité tchèque. Le cubisme tchèque est tout autre que le cubisme français, d'autant que la France n'a presque pas d'architecture, de design, de meubles cubistes. Alors c'est ce musée qui, je pense, peut intéresser le visiteur étranger, et plus spécialement français.
C'est la fin de cette émission. Merci de votre attention ainsi que de vos suggestions et remarques. Au revoir et à très bientôt sur nos ondes.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America,